Salut, c'est David, bienvenue dans l'épisode spécial WWDC de C'est pour ma pomme. Bienvenue à tous dans cet épisode un peu spécial, l'épisode de la WWDC qui vient de se terminer il y a une vingtaine de minutes. Donc comme tous les ans, j'ai décidé de vous enregistrer mon petit épisode. Alors petit, peut-être pas parce que il y a quand même, ça a été une keynote assez dense au final, une keynote qui a duré pratiquement 2h30 avec une grosse partie dédiée aux développeurs, ce qui est tout à fait normal au final pour une keynote qui est tournée vers les développeurs au départ. J'ai pris pas mal de notes, alors il y a des choses qui sont intéressantes, il y en a qui sont beaucoup moins, mais bon, voilà, sur certaines choses, je passerai assez vite. Sur d'autres, je vais peut-être un peu plus m'étendre parce que c'est des choses qui m'intéressent. Comme d'habitude, Tim Cook a développé sur les 4 OS présents dans l'univers Apple, tvOS, watchOS, iOS et macOS, avec petite déclinaison au niveau d'iOS. Parce que maintenant, au sein d'iOS, il y aura iPadOS, un OS spécialement destiné à l'iPad, avec pas mal de nouveautés intéressantes, mais bon, ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Je vais essayer de reprendre la keynote dans l'ordre dans laquelle elle s'est passée. Alors, ça peut paraître un peu décousu, parce que c'est j'ai noté les news au fur et à mesure qu'elles étaient annoncées. Donc voilà, ça peut paraître au final un peu décousu, mais c'est comme ça que ça a été annoncé. Premier OS dont Tim Cook a parlé, tvOS, avec au final assez peu de nouveautés. Je pense que toutes les nouveautés marquantes au niveau de tvOS avaient été présentées lors de la dernière keynote, où les services à la Netflix d'Apple avaient été annoncés. Mais là, quand même, deux nouveautés qui, moi, me paraissent un peu importantes, ou du moins qui seront utiles pour moi. Déjà, premièrement, le multi-utilisateur arrive sur tvOS. Ça peut être une bonne chose quand vous avez une ou plusieurs Apple TV comme moi à la maison, et surtout quand plusieurs personnes de la famille utilisent l'Apple TV avec des centres d'intérêt, des contenus un peu différents. Ça peut être intéressant d'avoir le multi-utilisateur, justement pour retrouver ses réglages et pour pas être obligé d'avoir le contenu des autres membres de la famille, d'avoir justement tout son environnement bien enregistré à chaque fois qu'on utilise l'appareil. Deuxième nouveauté qui me paraît un peu plus bizarre, je pensais pas que ça allait arriver, mais au final j'en suis assez content, c'est l'arrivée de la compatibilité des manettes Xbox et PlayStation. Alors notamment pour l'arrivée d'Apple Arcade, qui on le sait pas réellement, mais bon, qui devrait arriver au niveau de cet automne. La compatibilité des manettes Xbox et PlayStation, alors il existait énormément de manettes tiers en Bluetooth sur le marché, mais bon, c'est vrai que de rendre compatibles les manettes Xbox et PlayStation, ça peut être une bonne chose. Déjà premièrement parce que c'est des manettes de consoles qui sont vraiment développées pour le jeu, qui sont des manettes qui sont étudiées pour ça. Et pour des personnes comme moi qui utilisent la manette Xbox depuis des années et qui aiment cette manette, parce que voilà, je m'y suis habitué, j'ai mes habitudes dessus, ça peut être bien justement de rendre compatible ça avec Apple Arcade sur l'Apple TV. Notamment pour des personnes qui, je prends mon exemple à moi, mais je pense m'abonner à Apple Arcade parce qu'il y a quelques jeux que j'attends énormément sur Apple Arcade, dont Ocean Horn 2. Et voilà, ça peut être bien de pouvoir réutiliser ma manette Xbox et de retrouver mes habitudes quand je jouerai à ces jeux-là. Pour moi, c'est les deux choses majeures qu'ils ont annoncées ce soir au niveau de tvOS. Les quelques petites choses qu'ils ont annoncées à côté, voilà, c'est des petits ajustements, mais rien de très important, enfin du moins pour ma part. Après, ils sont passés sur watchOS. WatchOS 6, on le savait, on connaissait le nom depuis bien longtemps, du moins on s'y attendait. Pas mal de nouveautés, même si c'est pas des nouveautés très marquantes, du moins pour la plupart. De nouveaux fonds d'écran comme tous les ans. C'est bien, enfin, c'est pas extraordinaire, mais bon, de toute façon, tant qu'Apple n'ouvrira pas aux développeurs tiers la possibilité de créer des fonds d'écran, voilà, c'est toujours aussi bien qu'Apple en sorte assez régulièrement pour pouvoir, pour pouvoir changer nos fonds d'écran. C'est vrai que si Apple n'en sortait pas régulièrement, on serait quand même coincé avec les très peu d'écrans qu'il y avait au départ, au lancement de watchOS, qui était vraiment assez maigre au final. Donc c'est bien qu'ils renouvellent assez souvent leur fond d'écran et qu'ils en ajoutent des nouveaux. C'est toujours un bien. Deuxième chose, l'arrivée de quelques applications, dont on avait entendu parler dans les rumeurs. Alors il y en a quelques-unes que je trouve intéressantes, dont je comprends l'usage. Pour d'autres, clairement pas beaucoup. Alors l'arrivée d'Audiobooks, très bien. Ça vous permettra de lire votre contenu sur votre montre, comme l'était l'application Apple Music, comme l'étaient les applications de podcast. L'arrivée de Voice Memo. Très bien, quand vous avez votre montre, que vous n'avez pas forcément envie de sortir votre téléphone de votre sac ou de votre poche et que vous avez juste un petit mémo vocal à enregistrer, ça peut être bien d'avoir l'application sur la montre. Par contre, ils ont annoncé l'arrivée de la calculatrice sur l'Apple Watch. Là, j'en vois beaucoup moins l'utilité. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que certains peuvent en avoir une utilité pour des utilités de niche, mais moi j'en vois franchement pas l'utilité. Ça, c'est toujours bien d'avoir plus d'applications sur la montre, mais celle-là, clairement, j'en vois pas une grosse utilité pour ma part. L'arrivée de l'App Store sur la montre, on le savait, c'était quelque chose qui avait été largement annoncé dans les rumeurs et par pas mal d'analystes. C'est une bonne chose, du moins pour les applications qui sont bien destinées à la montre. Ça peut être bien de pouvoir directement les télécharger sur l'appareil et ne pas être obligé de passer par le téléphone pour une petite application. Mais bon, ça, je pense pas que ça apportera un gros bénéfice parce que je pense pas forcément qu'il y ait beaucoup de gens qui téléchargent beaucoup d'applications sur la montre. La montre, je pense, est plus destinée à avoir un miroir des applications que vous avez sur votre téléphone. Et encore, la plupart des gens que je connais du moins utilisent leur montre en mettant le moins d'applications possible, mais en se concentrant vraiment sur des applications bien précises. Autre nouvelle que j'attendais beaucoup plus au niveau de watchOS, c'est un redesign et l'arrivée de nouvelles fonctionnalités dans l'application santé et dans l'application activité. Alors, dans l'application activité, pas mal de nouvelles choses qui vont arriver, dont une qu'on attendait vraiment et une dont on avait quasiment jamais entendu parler, enfin du moins que moi je n'avais jamais, dont j'avais jamais entendu parler. Donc il y aura une nouvelle fonction pour vous permettre de suivre vos menstruations si vous êtes une femme, ce qui peut être une bonne chose, ce qui peut être utile, mais bon, c'est vraiment une news dont on entendait parler depuis un bon moment. Autre news dont j'ai été surpris par l'arrivée. Je vois pas. C'est un peu comme la fonction calculatrice. J'en vois pas forcément une grande utilité, mais pourquoi pas. Ça peut toujours être bien. Ça rajoute des data au niveau de la santé. C'est un détecteur de bruit qui va vous permettre de checker un peu tous les décibels ambiants autour de vous et de vous dire quand c'est bon pour votre audition, quand c'est un peu moins bon. Je sais pas si ça aura réellement une grosse utilité tous les jours, mais bon, pourquoi pas. C'est bien de rajouter de toujours avoir des datas un petit peu en plus au niveau de la santé. Je l'avais dit dans plusieurs épisodes. Toute data au niveau de la santé qui peuvent être ajoutées sont toujours bonnes à prendre. Ça peut vous permettre de suivre un peu plus, puis de checker un peu plus toutes les datas qui sont utilisées par les différentes apps de santé ou de sport ou d'activité que vous possédez sur votre téléphone. Apple a bien spécifié qu'il ne sauvegardait aucune donnée audio. Comme d'habitude, Apple est vraiment tourné maintenant vers le respect de la vie privée et vers le... Bah le... Oui, le respect de la vie privée, il n'y a pas d'autre mot. Et n'enregistre pas vos données, vos data, ou du moins quand il les enregistre. Il les crypte de bout en bout, mais bon, pour la plupart des données, elle reste en local sur votre téléphone et ça sera bien sûr là le cas pour le détecteur de bruit, parce qu'ils ont bien dit qu'ils n'enregistreraient aucunement les sons qui sont enregistrés là, par ce détecteur-là. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils ont annoncé pour WatchOS. Pas mal de nouveautés au final, mais bon, rien de très transcendant. Vraiment, c'est une remise à niveau, enfin c'est un bon redesign de WatchOS. C'est pas un WatchOS majeur, on va dire. Après, ils sont passés à iOS, iOS 13, on le savait très bien. Pas mal de nouveautés qui avaient leaké, et j'ai envie de dire quasiment toutes les nouveautés qui avaient leaké au niveau d'iOS étaient vraies, étaient fondées. Et on en a eu l'exemple bien précis ce soir, parce que quasiment tout ce qui avait leaké a été annoncé au fur et à mesure qu'ils annonçaient les nouvelles dans iOS. On pouvait faire un croix sur un bingo. C'était vraiment tout ce qui avait été annoncé ces dernières semaines au niveau des rumeurs. Première grosse nouveauté qui était attendue, on le savait, ça devait arriver. C'était le thème sombre, le dark theme sur iOS. Au final, je trouve clairement que ça rend plutôt pas mal. Alors, je suis un grand utilisateur de thèmes sombres. Je trouve que c'est beaucoup plus reposant pour les yeux. Toutes les applications que j'utilise qui peuvent passer au thème sombre, je les passe en thème sombre. Donc là, bah, c'est vrai que ça apportera quand même pas mal de choses. Je pense que la plupart du temps, mon téléphone sera sous ce thème-là. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'attendais. C'est pas quelque chose de majeur dans iOS, mais bon, c'est quelque chose que j'attendais. Je l'avais déjà dit, je sais plus si c'était dans un billet de blog ou si c'était dans un précédent épisode du podcast, mais un nouveau clavier va arriver un peu de type SwiftKey, le clavier de Google. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse parce que c'est pas forcément un clavier que j'utilise. Mais bon, je sais qu'il y a énormément de gens qui l'utilisent, ce clavier-là. Donc c'est bien qu'Apple l'ait implémenté maintenant sur iOS. Donc comme je le disais, c'est un peu décousu, mais bon, c'est comme ça que ça a été annoncé. Après, ensuite, après ce clavier de type SwiftKey chez Google, ils ont annoncé, ils ont parlé de l'application musique. Donc, ils ont montré le thème sombre de l'application musique. C'est celui qu'on avait vu dans toutes les rumeurs ces derniers jours et ces dernières semaines. Mais ils ont aussi annoncé l'arrivée des paroles dans l'application musique. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui va me servir à moi, mais bon, je ne doute pas qu'il y ait certaines personnes qui soient contents de le voir arriver. Après, on arrive dans les nouveautés qui me paraissent, à mon goût, beaucoup plus intéressantes. Ils ont annoncé un énorme redesign de l'application Rappel. Quelque chose, moi, qui m'a assez marqué, c'est que ces derniers mois, j'avais décidé d'acheter l'application Things. Et au final, je me demande si c'est pas une erreur que j'ai fait, parce que là, de ce qu'ils ont montré de la nouvelle application Rappel, ça va quand même fortement se rapprocher de ce que Things 3 fait. Et comme je l'ai déjà dit des dizaines et des dizaines de fois, je préfère, moi, pour mon utilisation, utiliser des applications natives de l'OS. Je trouve que c'est beaucoup plus intégré, on reste dans le design. Et là, de voir ce qu'Apple a fait de l'application Rappel, je me demande si ça va pas me pousser à arrêter l'utilisation de Things et de revenir sur cette application. Alors on verra bien quand iOS 13 arrivera en septembre, quoique je vais quand même la tester pas mal avant en bêta publique. Mais bon, franchement là, je trouve que le redesign complet de l'application Rappel est assez massif, et je pense que c'est une application qu'il va falloir vraiment, si vous l'utilisiez plus, rejeter un coup d'œil dessus, parce que je pense qu'elle va vraiment amener beaucoup plus de fonctions. J'en ai parlé, je l'avais écrit dans le dernier billet de blog que j'avais fait sur ce que j'attendais de la WWDC, et il y a pas mal de choses dont j'ai parlé dans ce billet de blog qui ont été annoncés là sur le redesign de l'application. Donc voilà, je suis assez content pour cette application là. Ils ont ensuite annoncé une énorme refonte. Alors Ça peut paraître gros, mais je trouve que c'est quand même une énorme refonte de l'application Map. Alors, j'exagère un peu en disant énorme, mais c'est vrai que les grosses nouveautés qui ont été annoncées vont arriver déjà aux États-Unis. Je pense par la suite dans le reste du monde, mais c'est vraiment une grosse refonte, du moins pour les États-Unis, une grosse refonte de l'application Map. On retrouve énormément de choses qui étaient disponibles dans Google Maps et on sent qu'Apple, au fur et à mesure des itérations de cette application-là, bah, essaye de reprendre le pas et de rattraper le retard qu'ils avaient sur Google Maps. Et c'est plutôt franchement pas mal. Si les nouveautés arrivent assez rapidement chez nous, bah, ça sera pas encore au niveau de Google Maps, mais ça s'en rapproche lentement, mais sûrement. Ils ont ensuite annoncé alors un nouveau bouton pour se connecter. Vous le savez, généralement quand vous allez sur certains sites internet, vous avez généralement deux boutons en bas, vous connectez avec Facebook ou vous connectez avec votre compte Google. Et ben Apple a décidé d'annoncer un bouton de ce type-là, ça sera la même chose, mais en vous connectant avec Apple en fait, avec vos identifiants Apple, donc ça sera quelque chose de beaucoup plus sécurisé, du moins je pense. Alors ça sera peut-être pas disponible sur tous les sites, mais ça sera disponible sur pas mal de sites, sur pas mal de services, sur pas mal d'applications. Donc voilà, ça peut au niveau de la vie privée, ça peut être quelque chose de franchement pas mal. Dans ce même esprit, ils ont annoncé que bah, quand vous vous connecterez avec ce signe avec Apple, vous aurez deux choix au final. Vous pourrez vous connecter avec votre adresse email et partager votre adresse email si ça vous gêne pas de le faire. Ou alors, vous pourrez vous connecter avec une adresse qu'Apple aura elle-même créée, qui sera une adresse random, qui changera à chaque fois. Ça peut être une bonne chose, enfin, du moins pour moi, c'est quelque chose que j'utiliserai, parce que c'est vraiment une bonne chose si vous voulez avoir un soupçon de vie privée et ne pas partager vos données, vos adresses mail. Donc franchement, moi je trouve que c'est une bonne chose. On va toujours dans le même sens avec Apple, dans le sens de la protection de la vie privée. De la protection des données. Et alors ça peut déplaire à certains. Moi franchement, c'est un chemin dans lequel je préfère aller. Je préfère, comme on le dit souvent, être avec des produits Apple, être dans une prison dorée. Mais au moins voilà, moi je sais que c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'utilise des produits Apple. C'est parce que je sais que mes données sont entre gros guillemets, alors peut-être qu'un jour on apprendra autre chose, mais entre gros guillemets, mes données sont beaucoup plus sécurisées sur cette plateforme. Ils ont annoncé après pas mal de choses au niveau de la sécurité, pareil concernant HomeKit. Alors pas mal de choses. Si ça vous intéresse, faudra essayer d'aller voir. Mais voilà, moi c'est quelque chose que j'utilise HomeKit, mais ils ont annoncé notamment pas mal de choses pour les caméras, et j'ai pas de caméras qui sont compatibles, du moins dans celles qu'ils ont annoncées. Donc peut-être que par la suite, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour moi. Pour l'instant, pas forcément, ça rentrera pas dans mon système. Donc voilà. Ils ont annoncé aussi après, alors pour changer totalement de sujet, pas mal de personnalisation au niveau des emojis et des memojis plutôt en particulier dans votre application de message. Alors vous pourrez personnaliser du moins pour les femmes, parce que j'ai pas l'impression que ça sera beaucoup utilisé par des hommes, mais au niveau des femmes, vous pourrez personnaliser vos emojis avec du maquillage, des piercings, des accessoires. Vous pourrez aussi maintenant utiliser vos emojis en tant que stickers, qui n'était pas forcément disponible. Alors il existait des packs de stickers avec mais là maintenant vous pourrez utiliser vos propres emojis. C'est quelque chose qui est pas mal pour les gens qui les utilisent. J'utilise pas forcément ça tous les jours, mais bon voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité, ça peut être pas mal de l'utiliser. Après ils sont passés toujours dans iOS, ils sont passés à la photo et à la vidéo, quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. Et ils ont annoncé de nouveaux outils pour éditer ces photos et aussi de nouveaux outils pour éditer ces vidéos. Alors, bien sûr, je vous arrête tout de suite. Ça sera toujours pas au niveau des apps d'édition professionnelle telles Lightroom ou LumaFusion pour la vidéo. Mais bon, voilà, il rajoute au fur et à mesure quelques petits outils. Je vous rappelle qu'au départ, dans l'application photo et pour les vidéos, on n'avait vraiment pas beaucoup d'options. On ne pouvait pas faire grand-chose. C'est bien, Apple en rajoute au fur et à mesure un petit peu. Ils ont annoncé aussi, en termes de photos, alors, j'irais pas dire un léger, c'est quand même un redesign assez conséquent de l'application photo qui a franchement l'air pas mal. C'est une des choses que je vais pas mal tester sur la bêta d'iOS 13. C'est un redesign au niveau de vos photos qui sera plus tourné vers le... Alors vous aurez une section, c'est pas une section, mais vous pourrez voir vos photos en fonction des mois, des semaines, des années. Et c'est un redesign par rapport à ce que était l'application photo que je trouve franchement pas mal. On en a pas vu beaucoup, mais je doute pas que beaucoup de news vont sortir au fur et à mesure des bêtas, des prochaines bêtas. Après, ils sont passés à pas mal de news concernant les produits tierces tels que sont les AirPods, le HomePod et ces choses-là. Pas de grosses nouveautés transcendantes. On a appris que maintenant, dans les AirPods, quand vous serez en train d'écouter de la musique, les AirPods pourront vous lire, du moins Siri pourra vous lire vos messages à travers les AirPods. C'est quelque chose qui peut être pas mal. C'est pas quelque chose qui sera... c'est pas quelque chose qui va changer la vie de ceux qui possèdent des AirPods, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui peut... C'est une petite nouveauté qui peut être pas mal. Par contre, une nouveauté qui peut vraiment être intéressante, c'est que maintenant, vous pourrez partager de la musique sur une deuxième paire d'AirPods. Alors, comment ils ont expliqué ça? En fait, si vous êtes avec quelqu'un qui possède aussi un iPhone et une paire d'AirPods, vous pourrez, en passant par votre téléphone, lui partager la musique. Il recevra une notification sur son téléphone s'il accepte la musique que vous écoutez ou toute autre chose, que ça soit tant que c'est de l'audio, pourra être envoyé directement sur les AirPods de la personne qui est à côté de vous. Alors, voir comment ça marche, ils en ont pas forcément dit plus. Va falloir voir si par exemple quand on est en avion, est-ce que on peut écouter la même musique sur deux paires d'AirPods. Ils ont pas vraiment donné d'exemple, mais bon voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant au final. Si comme moi vous avez plusieurs personnes qui possèdent des AirPods à la maison. Après, pour finir sur iOS, ils ont annoncé une amélioration de Siri, mais de ce que j'ai vu, clairement, ça va beaucoup plus toucher les États-Unis au départ, enfin, ou du moins les pays anglophones. Je pense pas que ça va avoir de grands changements au niveau de nous Européens et du moins au niveau de nous Français. On n'aura pas d'énormes changements au niveau de Siri. Mais bon, voilà. C'est toujours bien de savoir qu'Apple améliore Siri au fur et à mesure, même si c'est encore pas la panacée. Après, ils sont passés à l'iPad. Donc, comme je vous le disais un peu plus haut, nouvelle OS, du moins déclinaison d'iOS, qui sera iPadOS. J'attendais énormément d'iPadOS. C'est, à vrai dire, la chose la plus importante, enfin du moins les news que j'attendais les plus importantes de cette conférence étaient les news concernant l'iPad. Alors pour certaines, j'ai été assez content, pour d'autres, un peu plus mitigé ou un peu plus déçu. Et alors carrément pour d'autres, il y a certaines rumeurs qu'on avait entendues ces dernières semaines, dont j'avais parlé dans mon dernier billet de blog, que je trouvais... pas très cohérent et qui au final n'étaient que des rumeurs et n'ont même pas été annoncées, n'ont même pas été ils en ont même pas parlé durant la keynote. Première chose dont ils ont parlé pour iPadOS, c'est le multitâche. Alors maintenant, le multitâche sera beaucoup plus flexible au niveau de l'iPad et je pense notamment au niveau des iPad Pro qui sont un peu plus puissants. Et franchement, c'est quelque chose d'assez intéressant, notamment Le fait que maintenant on pourra avoir deux applications similaires sur le même écran, deux fois Notes, deux fois Safari, c'est vrai que ça peut être intéressant pour, bah, pour pas tout un tas d'usages, pour des personnes comme moi qui utilisent l'iPad comme appareil principal pour travailler, pour créer du contenu, bah, c'est des nouveautés qui sont super intéressantes et que je suis assez content de voir arriver. Après, ils sont passés à Fichier, l'application Fichier, dont on attendait énormément, du moins les personnes qui utilisent l'iPad couramment, attendaient énormément de cette refonte de l'application Fichier. Il y a beaucoup de choses qu'on attendait qui ne sont pas arrivées au final. On attendait, enfin moi en tout cas, et je pense beaucoup d'autres, attendaient la gestion des disques durs sur l'iPad. On n'y aura pas droit encore, mais Apple a dit qu'on pourrait brancher une clé USB. Donc l'application Fichier permettra d'accéder au dossier partagé sur un réseau et on pourra donc brancher une clé USB à un iPad et on pourra lire et écrire du contenu sur cette clé. Alors c'est déjà bien, c'est un bon début. Peut-être que ça augure le fait qu'ils veulent y aller doucement et pas donner l'accès à des disques durs externes, de gros disques durs externes pour l'instant. Et que ça arrivera par la suite, ou peut-être tout simplement qu'ils ont parlé de clé USB pendant la keynote et que ça sera exactement pareil avec un disque dur externe. On n'en sait vraiment pas plus de ce qui a été annoncé lors de la keynote, mais l'exemple qui a été donné, du moins, a été donné avec une clé USB. Donc va falloir voir là pendant les tests qui vont être faits par les développeurs avec les toutes premières bêta, mais du moins c'est ce qui a été annoncé. On pourra enfin, et ça c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, on pourra enfin partager un dossier avec iCloud Drive. Enfin, c'était quelque chose qui manquait cruellement sur l'iPad. Donc franchement, c'est bien. Ils ont aussi annoncé de nouveaux gestes sur l'iPad. Alors, à voir si c'est très intuitif. Ça m'a paru bizarre quand ils en ont parlé pendant la keynote. Du moins un geste qui m'a assez marqué, ils ont parlé du copier-coller et maintenant pour copier-coller sur l'iPad, alors je sais pas si ça sera la seule façon de faire, mais pour copier-coller sur l'iPad, il faudra faire un pinch à trois doigts pour coller, puis un pinch à trois doigts dans l'autre sens. Alors dans la première fois, il va falloir rassembler vos doigts au milieu de l'écran et la deuxième fois les écarter pour coller à un autre endroit ce que vous avez collé un peu, enfin copié un peu plus haut. C'est de nouveaux gestes, je suis pas sûr, enfin du moins va falloir voir quand on aura les bêta en main si c'est vraiment utilisable. J'ai pas l'impression que ça soit très intuitif. Le copier-coller est peut-être un tout petit peu long avant, mais c'était assez simple, je trouvais, de copier-coller un morceau de texte sur iOS. Je ne sais pas si le fait d'avoir rajouté ces gestes-là va être utilisé par beaucoup de monde au final. J'ai pas l'impression que ça soit, ouais, comme je disais, très intuitif. Alors, quelque chose dont on avait entendu énormément parler dans les dernières rumeurs, et comme je disais dans mon dernier billet de blog, je trouvais franchement que ça paraissait pas intuitif du tout et j'aurais trouvé bizarre qu'Apple annonce ça. C'est le support de la souris sur iPad. Eh ben non, c'était qu'une rumeur parce que Apple n'a pas fait du tout mention d'un support de souris sur l'iPad ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'était vraiment une rumeur fondée sur je pense pas grand chose. Mais en tout cas, ça n'arrivera pas sur l'iPad et je trouve pour moi, ça me paraît normal parce que l'iPad n'est pas fait pour avoir un tel support. Je sais pas, ça me paraît totalement contre-intuitif, contre-ergonomique d'utiliser une souris sur un iPad, notamment par le fait majeur qu'il n'y ait pas de pointeur sur un iPad, quoi. Donc voilà. Ça n'a pas du tout été fait mention, donc je pense pas que ça n'arrivera par la suite. Ça ne devait être qu'une rumeur et ça ne restera qu'une rumeur au final. C'est à peu près tout ce que j'ai noté au niveau d'iOS. Alors, quelque chose qui m'a vraiment frappé par rapport aux autres années, c'est que les autres années, quand ils avaient commencé à parler d'iOS, ils avaient tout de suite annoncé la compatibilité sur les anciens appareils. Et là, tout au long de la keynote, jusqu'à la dernière minute, ils n'en ont fait aucune mention. Donc, on ne sait pas du tout quels sont les appareils qui seront supportés par iOS 13, jusqu'à quel OS, enfin, jusqu'à quels appareils, quels appareils au final seront encore compatibles dans les plus vieux appareils. Donc, peut-être que ça va sortir là dans les prochaines heures sur les sites spécialisés, mais en tout cas, lors de la keynote, absolument aucune mention. Voilà, c'est donc comme je le disais, c'est à peu près tout, ce qui a été annoncé pour iOS. J'en suis déjà à 30 minutes, c'est quand même assez long. Je vais essayer de faire un peu plus rapide sur macOS. Et en plus, c'est quelque chose que j'utilise plus parce que j'ai plus de Mac, donc voilà. Alors, quand même quelque chose, un point sur lequel je voulais quand même parler parce que c'est quelque chose qu'on attendait énormément, du moins pas moi, mais que beaucoup de gens attendaient énormément. Et on savait pas si ça allait être annoncé, à la WWDC. J'avais moi-même dans mon dernier billet de blog pronostiqué le fait que peut-être il y en aurait mention. Bah, je m'étais complètement trompé au final. Parce que voilà, le nouveau Mac Pro a enfin été annoncé. Alors on revient comme les G5 à l'époque à une grosse tour en acier. Et ça, c'est le form factor qui me paraît le plus ergonomique pour avoir un Mac modulable, comme ça avait été demandé par énormément de personnes, du moins par les pros qui l'utilisent. Alors tout de suite, avant d'aller plus loin dans les spécifications et les prix, je dis pas qu'il est moche, forcément, mais au niveau design, je le trouve quand même assez discutable. Je le trouve pas moche, je le trouve même plutôt assez beau, mais je sais pas, je m'attendais pas à ce design-là au final, quand on voit tout ce qui a été fait dernièrement. Au niveau des iMac, je m'attendais à ce que et Apple nous avait habitués à rester toujours dans les mêmes designs ces dernières années. Et là, c'est vrai qu'ils ont vraiment tranché au niveau du design. C'est un design totalement différent de ce qui a été fait sur les anciens ordinateurs de la marque. Donc voilà. Design discutable, pas forcément moche, mais discutable. Il y a des gens qui aimeront, il y a des gens qui aimeront beaucoup moins. Donc comme je le disais, beaucoup, beaucoup plus modulaire. C'est un Mac qui va certainement ravir énormément les professionnels. Peut-être un peu moins au niveau du prix. Alors ils n'ont pas donné les spécifications du très très gros modèle, mais du moins pour le modèle de base, si vous prenez la tour, l'écran qui sera un écran 6K Retina, et tous les accessoires de base qui ont été présentés ce soir, et ben c'est un ordinateur en version de base qui reviendra à quasiment 12 000 euros. Et j'ai bien l'impression que ça soit le prix de base. À mon avis, il pourra monter énormément, énormément, énormément plus haut, en fonction de toutes les options que vous rajouterez dedans. Mais bon, 12 000 euros pour un tel ordinateur. Alors, oui, pour des pros, c'est bien. Pour une station de travail, c'est bien. Je pense clairement pas que c'est un ordinateur qui sera fait pour les particuliers. Alors peut-être certains pour se faire plaisir, qui ont énormément d'argent, vont se le payer. Mais voilà, c'est une machine professionnelle, c'est une station de travail professionnelle, réservée aux professionnels. Et les prix sont des prix professionnels. Mais ça reste quand même un très bel ordinateur, un ordinateur très très puissant. Je pense que là, Apple a remis les choses bien, bien à zéro. Beaucoup de gens se plaignaient de l'ancien Mac Pro. Apple avait annoncé qu'il arriverait avec quelque chose de lourd, et là je pense que ça a bien remis tout le monde d'accord. Là ils sont arrivés avec quelque chose de lourd au niveau du Mac Pro. Du moins si le Mac Pro vous intéresse, allez checker les news sur les sites ou sur les chaînes YouTube qui en parleront. Mais bon voilà, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit intéressant parce que je veux pas en dire plus. Même moi, j'ai pas un grand intérêt d'une telle machine. Après, ils sont passés à macOS. Donc assez rapidement, quelques petites nouveautés que j'ai notées qui seront intéressantes, du moins pour des personnes comme moi qui utilisent très peu macOS. Ma femme en a un, mais un Mac, mais moi je l'utilise très très peu. Quelque chose qu'on avait entendu et qui était quasiment acté depuis quelques jours, la mort d'iTunes, enfin. C'est une usine à gaz qu'on se traîne depuis pas mal d'années, va enfin mourir. C'est vrai qu'iTunes c'était devenu ces dernières années quelque chose de d'infâme à utiliser. Il y avait tout et rien dedans, et la musique, les films, la synchronisation de vos appareils, enfin tout était vraiment rassemblé dans iTunes et on comprenait au final plus grand-chose. iTunes va être splitté en plusieurs applications, du moins en trois applications majeures: Apple Music, Apple Podcast, Apple TV. Voilà, ça va vous permettre, et à côté de ça, vous aurez l'application Live qui existait depuis un moment sur Mac. Mais bon, voilà, chaque contenu aura son application qui sera beaucoup plus claire pour l'utilisation, sur macOS. Et comme je le disais juste avant, les informations, quand vous connectez, votre téléphone à votre Mac, avant, les informations de votre téléphone s'affichaient dans iTunes. Maintenant, elles s'afficheront plus dans iTunes, elles s'afficheront directement dans le Finder, dans la barre de côté. Et c'est ce qui avait été leaké il y a plusieurs mois au niveau des rumeurs. Et bah, je trouve que c'est pas plus mal au final. Voilà, il fallait retrouver une place pour cette fonction-là. La place la plus logique était dans le Finder et c'est là qu'ils l'ont mis. Autre news qui me paraît assez importante au niveau de macOS, dont on avait aussi, alors comme je le disais, hein, il y a quand même énormément de choses qui avaient fuité tout au long de ces derniers mois, parce que toutes les annonces que je liste depuis tout à l'heure, c'est quand même des choses dont on entendait parler qui étaient récurrentes tout au long des dernières semaines. Donc autre nouveauté que je trouve intéressante, c'est une nouveauté qui s'appelle Sidecar. C'est le fait de pouvoir utiliser son iPad comme second écran pour le Mac. J'en aurais pas forcément l'utilité moi-même, mais pour certaines personnes qui font du dessin, qui font pas mal d'autres choses, c'est une nouveauté qui était en tout cas attendue et qui est bien notée, enfin de l'avoir arrivé, c'est quand même une bonne chose. Autre petite chose qu'ils ont montré, que j'ai trouvé, alors pareil, dont j'aurais aucune utilité, mais que j'ai trouvé quand même assez intéressant et assez bluffant, c'est Voice Control. Vous pourrez contrôler vos appareils à la voix, alors autant le Mac que l'iPad et que l'iPhone. Et alors j'ai pas grand-chose à en dire, mais si vous avez l'occasion de pouvoir aller regarder la vidéo, j'ai vu tout à l'heure qu'elle était disponible déjà sur YouTube. La vidéo bien spécifiquement sur Voice Control, eh ben c'est quand même assez bluffant. Enfin voilà, ça sera pas utile à tout le monde, mais c'est quand même assez bluffant de ce qu'Apple a réussi à faire. Autre nouveauté, Find My. C'est une application qui va regrouper Find My iPhone et Find My Friend. Qui seront rassemblés maintenant dans une seule application. Rien de très extraordinaire, mais bon voilà, on le savait, ça avait leaké et c'est bien sorti ce soir. Donc on va voir si ça sera disponible aussi sur les iPhones et sur les iPads, mais du moins ça a été annoncé sur le Mac. Autre chose qu'on savait qu'allait arriver, temps d'écran sur le Mac. Alors je sais pas si vous utilisez beaucoup temps d'écran. Moi c'est quelque chose que j'aime bien regarder de temps en temps. Alors c'est pas quelque chose que je vais checker tous les jours forcément, mais j'aime bien de temps en temps. Je suis quelqu'un qui aime quand même bien les data, qui aime bien les stats. Et plus j'ai de data disponible sur mon téléphone, plus je suis au final assez content. Donc voilà, c'est des data en plus. Et je suis assez content de le voir arriver sur le Mac, même si j'en aurais pas forcément une grosse utilité. La dernière chose qui moi m'a paru assez bluffant au niveau de la WWDC, c'est l'exemple qu'ils ont montré au niveau de la réalité augmentée, et notamment avec Minecraft. Alors c'est pas quelque chose que j'utilise, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui soit encore vraiment beaucoup utilisé. Ça arrivera peut-être dans le futur, mais là j'ai quand même trouvé que la démonstration qui avait été faite avec Minecraft était assez bluffante. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, la réalité augmentée, allez checker ça. Allez checker ça, il doit y avoir les vidéos dispo directement sur YouTube, peu de temps après la keynote. Donc après ça, après ces nouvelles-là, il y a eu un gros passage pour les développeurs, qui est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais bon, c'est pas quelque chose que je comprends forcément beaucoup. Donc voilà, c'est la période qui a été un peu longue dans la keynote. Et c'est comme ça que s'est terminée en fait la conférence. Donc voilà, une conférence assez dense, un peu comme cet épisode. J'en suis déjà à quasiment 45 minutes. C'est quelque chose, ça a été une conférence assez dense, assez intéressante aussi. Va falloir voir au cours des prochaines semaines, bah, quand les testeurs vont tester les bêtas, et même quand la bêta va arriver la bêta publique va arriver courant juillet. Voilà, toutes les nouveautés n'ont pas été listées, il y a encore des choses qui vont être découvertes tout au long du test des bêtas jusqu'à l'arrivée de la version finale en automne. Donc voilà, je fais pas plus long, j'ai déjà été énormément long sur cet épisode. Comme d'habitude, si vous voulez interagir avec moi, tous les liens vers mes réseaux sociaux, vers mon blog et vers tout un tas de choses sont disponibles dans la description de cet épisode. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain épisode. Ciao! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller sur iTunes ou sur toute autre application de podcast pour lui mettre une note ou des étoiles, ça aidera le podcast à remonter dans les classements et à se faire connaître.